CFM Lacaune, le MAG.
Actuellement, les salariés de la Fédération de chasse du Tarn, de l'Aveyron et de Lozère tentent de poser des colliers GPS à des troupeaux de cerfs, en tout cas des cerfs, sur le département et notamment dans les monts de Lacaune. C'est pourquoi je reçois ce matin David Aymar, le directeur de la Fédération des chasseurs du Tarn. Bonjour Monsieur Aymar, merci d'être avec nous.
Bonjour à vous.
Alors, je suis heureuse de vous avoir au bout du fil pour parler de ces grands cervidés, hein, puisque c'est vrai que c'est des animaux qui nous font rêver. Est-ce qu'on peut parler de cette action, la mise en place de colliers GPS, c'est dans quel but ?
Oui, alors, il n'y a pas que le GPS dans ce projet, c'est un assez gros projet qu'on a développé avec, vous l'avez dit, nos collègues de l'Aveyron, de la Lozère et en partenariat avec notre fédération régionale, mais également avec INRAE, qui est l'institut de recherche, hein, qui s'appelait l'INRA précédemment, et le parc naturel du Haut-Languedoc, hein, donc qui vous concerne bien sur les monts de Lacaune, que vous connaissez très bien. Pourquoi on a développé ce projet ? Parce qu'en fait, l'espèce cerf est présente sur le département du Tarn depuis très longtemps. Elle était présente il y a très très longtemps, la population était renforcée et elle est présente sur le nord du Tarn depuis les années 50-60. On constate que cette espèce, elle évolue dans l'occupation spatiale du département et qu'il y a des animaux notamment qui rentrent par l'Aveyron sur le sud du Tarn, le sud-est du Tarn et notamment du côté des monts de Lacaune. Mais on ne connaît pas bien les déplacements de ces animaux et la façon dont ils occupent l'espace. Donc l'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin et d'essayer d'avoir des connaissances supplémentaires.
Alors du coup, vous allez essayer de suivre 5 animaux, si c'est bien ça, je crois 2 cerfs et 2 biches, et 3 biches, pardon. Quelle est l'idée ? C'est vraiment de voir les déplacements, de voir où c'est que finalement sont leurs lieux de vie en journée, la nuit ?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est l'avantage de ces nouvelles technologies. Suivre des animaux, bon, c'est notre cœur de métier, évidemment, pour les fédérations des chasseurs, hein, qui sont malgré tout de la protection de l'environnement depuis des dizaines d'années. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est mieux connaître les espèces avec les outils qui sont disponibles. Alors, on a des techniciens, hein, vous l'avez cité, qui sont spécialisés là-dedans. Et précédemment, on utilisait des techniques radio. Hein, on posait des émetteurs sur les animaux et ensuite, on les suivait avec de la radio, avec des antennes. Mais c'est un peu compliqué. Dès qu'il y a des vallées, des rochers, tout ça, il y a des échos. Enfin, on retrouve pas forcément les animaux. C'est pas simple. Ça, c'était ce qui s'était fait pendant des années, depuis les années 60, 70, 80. On suivait les animaux comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des outils de suivi technique qui sont un peu plus évolués, qui sont notamment, ce que vous avez dit, les colliers GPS. Alors, les colliers GPS, bah, tout le monde connaît le GPS, hein, pour se repérer sur une route, aller d'un point à un autre. Et là, on peut l'utiliser maintenant, la technique fonctionne bien, pour suivre des animaux. Alors, la difficulté, c'est que pour utiliser ce collier GPS, ou pour avoir des informations, mais il faut d'abord le poser sur l'animal.
Oui. Et ça, c'est pas forcément évident.
Et ça, évidemment, dans la mesure où on travaille sur du sauvage, c'est pas forcément évident. Il ne s'agit pas d'attraper une fourmi et de lui mettre un coup de peinture sur le dos. Non, là il faut attraper un cerf et puis lui mettre le collier autour du cou. Voilà. Et ensuite, qu'il reparte en bonne santé si possible. Voilà. Donc c'est ça la difficulté technique. Mais ceci dit, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. On s'est renseigné, on s'entoure de spécialistes, notamment d'INRAE. Et donc, on a mis les opérations en place depuis le mois d'octobre.
D'accord, donc le but c'est d'essayer d'endormir un cerf ou une biche, de lui mettre un collier et puis que cet animal reparte tranquillement.
Tout à fait. Alors effectivement, il faut s'organiser pour pouvoir faire des affûts ou des approches avec les fusils hypodermiques. Alors avec un fusil hypodermique, on ne peut tirer qu'à très courte distance, hein, 30 mètres maximum. Donc il faut faire des approches très serrées, très silencieuses pour que l'animal s'échappe. Et ensuite, donc les produits qu'on injecte sont validés par des vétérinaires, bien évidemment, sous couvert de vétérinaire, on travaille, puisqu'il faut pas faire n'importe quoi avec la faune sauvage. Et ensuite, une fois qu'on a fléché l'animal, et ben il s'endort un petit moment, et pendant ce temps-là, on l'équipe, c'est complètement indolore, hein, on l'équipe d'un collier à la bonne taille. C'est pour ça que vous avez cité peut-être des biches, des cerfs, enfin en tout cas des animaux de différentes tailles, puisqu'on a des colliers de différentes tailles, il faut qu'on leur mette le collier adapté. Et ensuite, l'animal repart, comme si de rien, même pas une demi-heure après, hein, il n'est pas endormi très longtemps, et il repart et il continue sa vie. Et à partir de là, on va presque tout savoir de l'endroit où il est passé. Et normalement, les colliers doivent émettre pendant 60 mois, en espérant qu'ils ne tombent pas en panne. Ça reste de la technologie.
Bien sûr.
C'est pas toujours très fiable. Bon, Maintenant, c'est assez fiabilisé, ça fonctionne quand même.
Et alors, vous le disiez justement, il y a de l'affût, il y a aussi, je suppose, une étude en amont pour savoir où c'est que se trouvent les cerfs, où c'est que, à quel moment ça peut être le plus judicieux de s'approcher d'eux. Je suppose qu'il y a vraiment une étude qui a été faite en amont.
Oui, alors c'est effectivement là toute la que réside toute la technicité hein, de l'opération, puisque on ne va pas s'improviser comme ça sur le terrain pour aller attraper un cerf, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut effectivement avoir une bonne connaissance du terrain d'abord, parce que souvent on travaille de nuit, ou en tout cas au petit jour ou le soir, s'il ne fait pas nuit, c'est pas loin. On travaille aussi de nuit. Et bien sûr, il faut être entouré d'équipes, on a des bénévoles qui nous aident hein, localement, qui connaissent très bien le terrain aussi et qui connaissent bien les mœurs des animaux, où est-ce qu'ils passent, à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils repartent, quel type d'animaux passent par là. Tout ça, c'est la connaissance qui revient de notre réseau de terrain, que sont les chasseurs, qui sont présents sur le terrain toute l'année et qui donc ont ces informations très précieuses pour que les opérations réussissent.
Donc on voit que tout est mis en place, donc il y aura une opération par exemple dans les Monts de la Cône dans les jours à venir, donc ne soyez pas surpris. Justement, dans les Monts de la Cône, où c'est qu'on retrouve des populations, je crois qu'il y en a autour de la Cône, il y en a aussi autour de Vianne.
Oui, alors plus précisément du côté de Murat, puisque ce sont des animaux qui rentrent de l'Aveyron, Murat, Moulin-Mage, je crois, de mémoire, quelques animaux aussi. Et puis autour de Vianne, effectivement, il y avait une population qui s'est installée, puisqu'il y avait un ancien parc il y a quelques années. Là. Les animaux ont été laissés un peu à l'abandon, ils se sont échappés et ils ont constitué une petite population. Mais on sait qu'il y a des animaux erratiques aussi qui viennent plutôt du nord du département. Alors bon, sur le nord-ouest, on le savait, hein, Forêt de Grésigne,
oui,
alentour,
bien sûr.
Vaour,
très
tout
connu.
Ça, pas de souci, Mont-Rosier, quand on remonte au nord. Et puis ensuite, ils ont suivi la vallée de l'Aveyron, la vallée du Vior. Ils sont aussi descendus, enfin ou plutôt montés, je sais pas comment on peut dire, sur le plateau Cordé, et on a maintenant des animaux qui sont, je dirais, presque en face de la cathédrale d'Albi. Vous pouvez quasiment entendre le brame depuis la place du Vigan ou pas loin, là sur les coteaux, en bordure d'Albi. Et puis des animaux sont aussi allés s'installer dans la vallée du Tarn.
D'accord.
En fait, ils sont redescendus hein, dans la vallée du Tarn. Et il y a des animaux erratiques sur les monts d'Alban, sur les monts de la Cône. Voilà, donc on sait bien que ces animaux, ils se dispersent. On ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle population ils arrivent. Donc c'est aussi cet objectif qui est poursuivi par cette étude. D'autres aspects vont être étudiés à partir des données qu'on aura recueillies, bien évidemment.
CFM La Cône, le MAG.
Vous écoutez le MAG sur les ondes de CFM Lacône. Je suis avec David Aymar, il est directeur de la Fédération des chasseurs du Tarn. Nous sommes ensemble pour parler d'un projet qui est en cours en ce moment pour mieux connaître les populations de grands cerfs vidés sur le département du Tarn et notamment celles présentes sur les monts de Lacône. Alors on a déjà fait un point sur comment allait être mis les colliers GPS, sur un petit peu les populations qui existaient dans les monts de Lacône. Alors David Aymar, on va continuer. Déjà, comment peuvent se constituer de nouvelles hardes, c'est des animaux solitaires qui arrivent sur un territoire et qui le colonisent. Enfin, comment ça se passe ?
Oui, en fait, la femelle se met un peu à l'abri de la harde lorsqu'elle va mettre bas, et une fois qu'elle a mis bas, elle rejoint le groupe. Mais de ce groupe, lorsque les jeunes mâles, notamment, hein, c'est souvent eux qui partent en premier, acquièrent leur deuxième année, fin de première année, début de deuxième année, en fait, ils se dispersent. Comme souvent chez ces grands mammifères, ils sortent de la harde. Alors, est-ce que c'est volontairement ou est-ce qu'ils se font sortir? Et soit ils rejoignent une harde de mâles, soit ils vont se disperser et peut-être emporter avec eux une femelle. Voilà. Et c'est comme ça que commence la colonisation, par un trio, souvent, un daguet, une bichette, des choses comme ça, qui vont coloniser d'autres zones.
D'accord.
Petit à petit. Mais on ne connaît pas le déterminisme encore.
D'accord. Et alors, bon, je vous pose une autre question dont vous aurez peut-être la réponse qu'après ces études. Mais par exemple, je vais prendre la population de Vianne que je vois. Elle est très, très proche des habitations. Ce n'est pas une espèce qui est peureuse.
Non. Par essence, le cerf, même s'il est sauvage, s'il a identifié qu'il n'y a pas de danger particulier, il va s'approcher effectivement des habitations. Bon, en plus, Vianne, c'est quand même en pleine nature, c'est pas Castres, hein, c'est pas l'agglomération de Castres, on est d'accord, il n'y a pas une activité extraordinaire le soir, il y a même plutôt plus d'activité
Oui, surtout au moment.
Non, mais je veux dire, autour des maisons, il n'y a pas Il n'y a pas de bruit particulier, voilà, et la nature reprend ses droits. Vous devez sans doute déjà avoir des espèces qui fréquentent le village assez régulièrement, je pense à des renards, des choses comme ça, voire même des sangliers qui doivent s'approcher des maisons. Donc le cerf fait pareil, tout simplement, il a pas de souci là-dessus. Après, il va garder quand même une distance de fuite, c'est-à-dire qu'il va accepter une présence humaine jusqu'à une certaine distance. Et cette distance sera différente et souvent plus courte lorsque l'homme sera dans un véhicule, puisqu'il n'identifiera pas le danger de la même façon.
D'accord. Voilà. Donc il y a toujours une solution de fuite, comme tout animal sauvage.
Toujours. Un animal sauvage, il a dans sa tête le schéma, la piste à prendre, le chemin à prendre pour partir en cas de problème, en cas de danger.
Et peut-être pour terminer, cette augmentation des populations, notamment sur le département du Tarn, est-ce que ça effraie peut-être certains, notamment on va penser aux agriculteurs, aux forestiers, et puis ça réjouit aussi d'autres, comme les collectivités, puisque c'est un attrait d'avoir ces animaux-là. On passe notamment à la forêt de Grésigne avec le brame du cerf chaque année, qui est vraiment un événement.
Tout à fait. Alors c'est là effectivement l'ambiguïté de la présence des grands animaux, mais comme tout un tas d'autres espèces, ou comme la biodiversité en général, parce qu'effectivement, d'un point de vue, on souhaite avoir de la biodiversité, avoir différentes espèces, différents habitats, et puis d'un autre point de vue, il y a aussi des activités humaines qui doivent pouvoir se réaliser sans trop de contraintes. Alors, vous avez raison, les forestiers, les agriculteurs peuvent parfois être inquiets, parce qu'en fait, ce sont des herbivores, donc forcément, il faut bien qu'ils mangent quelque part, soit en forêt, soit dans les prairies, et justement, le projet essaye de traiter aussi ces sujets-là, puisqu'il y a d'autres aspects à gérer dans le projet avec des objectifs assez précis, notamment d'un point de vue sanitaire, puisqu'en même temps qu'on va attraper des cerfs, on va aussi faire des prélèvements sur l'ensemble des cerfs qui sont tués à la chasse, avec notamment le partenariat avec la maison de l'élevage. Donc on va regarder s'il n'y a pas des maladies qui sont dans les espèces domestiques qui transiteraient éventuellement par les espèces sauvages. On va aussi faire des journées d'échange avec les autres acteurs du territoire, donc agriculteurs, forestiers, mais également collectivités, parce que vous l'avez dit, d'un côté on peut le voir négativement, mais d'un autre côté ça peut aussi faire un attrait pour le territoire, et donc on va parler de ces sujets-là. Et puis il y a l'aspect pédagogique, parce que finalement l'espèce, tout le monde ne la connaît pas forcément très bien, et il a été décidé, notamment avec le parc, qui est très attaché à ces aspects-là, de mettre en place une mallette pédagogique pour être utilisée et pour parler de l'espèce, mieux faire connaître l'espèce au cours des manifestations qui peuvent avoir lieu sur le territoire. Et comme ça, quand on connaît mieux, on comprend mieux.
David Aymar, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui sur les ondes CFM Lacon. Et puis bien sûr, nous reviendrons vers vous dès que les colliers auront été mis et que nous connaîtrons les premières données.
Et c'est avec grand plaisir, évidemment, qu'on reviendra vers vous pour vous dire où est-ce qu'on en est.
Eh bien, ça marche. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Aymar. Merci.
Merci beaucoup.